Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours. Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèle à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi 25 juin 2016. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par les journaux, suivi la revue de presse, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Ces auditeurs du titre La Voix d'Indonésie, voici le journaux 25 juin 2016. Avec le titre « La Croatie est prête à être le centre d'exportation d'Indonésie en Europe ». L'Indonésie assure que Brexit n'influence pas les relations bilatérales. Voici le bulletin complet. Le gouvernement croate montre sa volonté de devenir un centre d'exportation pour les produits indonésiens en fournissant des services à travers les portes et les infrastructures. Dans son interview avec la Voix d'Indonésie jeudi, l'ambassadeur de la Croatie en Indonésie, Drazen Margit, a dit « L'emplacement stratégique de la Croatie offrait la voie pour l'Indonésie de pénétrer le marché européen ».
Our geopolitical position or geostrategic position.
Notre position géopolitique ou géostratégique est très importante et dont nous voulons construire notre relation à l'avenir. Nous voulons être un centre d'exportation des produits indonésiens pour connaître les pays d'Europe centrale, d'Europe du Sud-Est et aussi les pays membres de l'Union européenne. La Croatie est un pays membre de l'Union européenne depuis 3 ans, dont fondamentalement avec vos produits et nous avons en tant que chanteur des produits indonésiens. Nous pouvons collaborer et pénétrer le marché là-bas. L'ambassadeur Margit a exprimé que les produits de l'Indonésie pouvaient pénétrer le marché européen en ligne avec la connexion de la Croatie avec le pays belte, la mer Adriatique et la mer Noire. En outre, c'est parce que les deux pays sont des pays archipelagiques. Elle a révélé la possibilité de coopération dans la construction navale et le transfert de la technologie en envoyant les ingénieurs croates en Indonésie pour collaborer avec les ingénieurs indonésiens. L'Indonésie est sûre que le résultat du référendum n'influencera pas la relation bilatérale entre l'Indonésie et le Royaume-Uni, et cela devient l'intérêt commun des deux pays de continuer à intensifier la coopération dans divers domaines stratégiques. Lors d'un référendum tenu jeudi 23 juin, l'Indonésie a examiné de près le processus et les résultats du référendum au Royaume-Uni le 23 juin 2016, qui est le reflet de la volonté de la majorité des gens britanniques. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, dans son communiqué de presse reçu par Antara vendredi, a déclaré que les résultats du référendum donneront naissance à un nouvel ordre politique et économique au Royaume-Uni et en Europe. Cependant, l'impact direct du référendum sera vu au moins les deux prochaines années. Du côté politique, l'impact direct pour l'Indonésie sur le résultat du référendum sera très limité. Les priorités des partenariats entre l'Indonésie et la Grande-Bretagne et le partenariat entre l'Indonésie et l'Union européenne ne changera pas. La Grande-Bretagne est un partenaire stratégique de l'Indonésie depuis l'année 2010. Le gouvernement indonésien a félicité tous les Colombiens pour la réalisation d'un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. L'ambassadeur d'Indonésie en Colombie, Tri Edi Mulyana, a déclaré dans son communiqué de presse vendredi, bien que cet accord ne soit pas encore l'accord de paix définitif, elle espère que l'accord conduit à la création d'un pays durable en Colombie. Après avoir passé le processus de négociation qui est long et compliqué, jeudi à La Havane, au Cuba, le gouvernement colombien et le groupe de guérilla des FARC ont signé un accord de cessez-le-feu pour mettre fin à un conflit qui a duré plus de 50 ans en Colombie. L'ambassadeur Tri Edi Mulyana espère que les deux parties respectent les contenus de l'accord et le gouvernement colombien a répondu à la promesse à son peuple afin de rétablir la confiance des uns envers le gouvernement. Il a ajouté que le gouvernement de l'Indonésie était prêt à renforcer la coopération avec la Colombie pour soutenir le processus de paix et son développement durable. L'Indonésie doit avoir une souveraineté de cyber afin de contrôler le flux d'informations, y compris la doctrine radicale, avec le standard du pays démocratique, mais priorise les intérêts nationaux. Après que la souveraineté de cyber soit appliquée, une variété de contenus numériques ou électroniques qui met en danger, l'État pourrait être résolu par des mesures préventives. C'est ce qu'affirmait un membre de la Commission 1 du Parlement de l'Indonésie en tant également le membre du comité de travail du projet de loi sur l'information et les transactions électroniques à l'IFSU du Tomo vendredi à Jakarta. Pendant ce temps, le professeur de sciences de la communication de l'Université Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, Yuli Chandrasari, a déclaré « La souveraineté de cyber était importante d'anticiper et de minimiser l'impact négatif de l'Internet, en particulier l'utilisation des médias sociaux qui est actuellement utilisée largement pour la propagande du radicalisme et le terrorisme. Concernant la propagande du radicalisme dans le cyberspace, Yuli Chandrasari admet il est très probable que cette propagande affecte les netizens, en particulier de ceux qui ont déjà une tendance. Divers moussafs de Coran de l'Indonésie et le Grand Coran imprimé étaient à l'attraction principale au stand d'Indonésie à la 24e exposition internationale du Coran tenue à Téhéran du 13 au 28 juin 2016. Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Téhéran reçu par la radio République Indonésie le jeudi, l'Indonésie a honneur d'occuper le pavillon avant-garde et ambassadeur de l'Indonésie à Iran, Octavino Alimuddin, est invité d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture. À la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur Octavino a coupé symboliquement le ruban avec le vice-ministre de la Culture et de l'Orientation islamique, Mohamed Reza Esmati. À cette occasion, l'ambassadeur Octavino Alimuddin a dit, à travers la participation à cette exposition, l'ambassade d'Indonésie à Téhéran veut promouvoir d'autre part l'Indonésie qui n'est pas seulement riche en culture et la beauté naturelle, mais l'Indonésie a aussi de fortes littératures islamiques dans la vie quotidienne. En outre, il y a aussi la proximité historique entre l'Indonésie et l'Iran, en particulier dans l'histoire de la propagation de l'islam dans l'archipel. L'an dernier, Les exportations des produits de la pêche d'Indonésie vers l'Espagne pour la période de janvier à avril 2016 ont atteint plus de 8 millions de dollars américains, soit environ 108 milliards roupies. Le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Madrid, cité par Antara de Londres, a informé vendredi que la valeur d'exportation a fortement augmenté de 221,3%. Il a dit que l'augmentation des exportations vers l'Espagne suit à une politique du gouvernement indonésien afin d'optimiser les résultats du secteur de la mer et de la pêche. Les exportations de la pêche indonésienne vers l'Espagne sont dominées par le poisson congelé, y compris le thon blanc, le thon jaune et le thon listo. En outre, les exportations des figuiers et de la viande de poisson vers l'Espagne sont également très prometteuses. Outre le poisson, l'Indonésie a également exporté des calmars, des crabes et d'autres animaux marins sous forme de surgelés ou transformés qui ont atteint plus de 804 000 dollars américains. Ces auditeurs auditistes de la voix d'Indonésie, c'était le journal aujourd'hui. Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix d'Indonésie. Voici le revue de presse. Divers événements importants qui se sont passés pendant une semaine ont été écrits par le quotidien Ekpro Jakarta dans la revue de presse. Nous commençons avec le quotidien Tempo qui a écrit dans son éditorial mercredi 22 juin 2016 « Il faut avoir les activités dans la mer de Natuna ». Il ne doit pas avoir aucun compromis sur la souveraineté de l'État unitaire de la République d'Indonésie. Par conséquent, la fermeté de la marine de faire face les navires de guerre chinois dans la zone économique exclusive ZEE de la mer de la Natuna doit être appréciée. Cela montre au public que les militaires d'Indonésie existent sur ces eaux et sont en alerte maximale. L'incident des navires de guerre indonésiens et chinois qui ont eu lieu le vendredi lorsque le navire de la marine indonésienne a tiré un navire de pêche chinois pratiquant la pêche illégale. Les navires de guerre chinois ont approché les navires de guerre indonésiens et ont demandé à libérer des pêcheurs chinois. Pas moins de deux navires de guerre chinois ont essayé de libérer le navire, mais les efforts ont échoué. Selon Tempo, la décision prise par le gouvernement indonésien de renforcer sa présence militaire dans ces eaux est correcte. Non pas parce que ces eaux sont riches en produits de la mer, les gaz et les minéraux, mais parce que ces eaux est le territoire indonésien qui doit être maintenu. La fermeté est nécessaire, bien que les efforts adoptés peuvent être mis en avant. Cependant, le quotidien Média Indonésia a écrit dans son éditorial mardi le 22 juin 2016, la synergie entre l'Agence de contrôle des finances BPK et la Commission pour l'éradication de la corruption KPK. L'Agence de contrôle des finances BPK et la Commission pour l'éradication de la corruption KPK doivent être le principal pilier de la lutte contre la corruption. Les deux institutions devraient créer une synergie en travaillant ensemble pour éradiquer la corruption. La synergie entre l'Agence de contrôle des finances BPK et la Commission pour l'éradication de la corruption KPK est très importante, notamment dans la question de l'hôpital Sumber Waras qui implique le gouverneur de Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selon Média Indonésia, le mot-clé est de respecter les devoirs et les fonctions de chacun, principalement liés à l'éradication de la corruption. Nous terminons la revue de presse avec le quotidien Republica dans son éditorial jeudi. Ce quotidien a écrit « Attendre la percée de Tito Karnavian ». Le commissaire général de la police Mohamad Tito Karnavian attente de recevoir le bâton de leadership à partir du chef de police de la République d'Indonésie, le général Badruddin Haiti. Jeudi 23 juin, la commission 3 du Parlement a approuvé la nomination de Tito en tant que nouveau chef de la police pour remplacer Badruddin Haiti qui prennent leur retraite. Ensuite, la l'approbation de la commission 3 du Parlement sera présentée à la session plénière pour inaugurer la décision du Parlement qui aura lieu le lundi 27 juin. Selon les estimations, Tito avait définitivement défini le chef de la police avant l'Eid al-Fitr. L'un des programmes prioritaires pour l'institution de la police quand il sera élu en tant que chef de la police est la réalisation des services publics plus faciles et l'éradication des scalpers. Ceci du théoritis de la voix d'Indonésie, c'était la revue de presse aujourd'hui.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix de l'Indonésie de l'édition que 25 juin, on va commencer le premier congrès indonésien organisé le 25 juin 1938. Congrès indonésien est un 100 réunions ordinaires annuelles tenues par le gouvernement et les praticiens de la culture et de la littérature en Indonésie pour discuter de l'Indonésie et le développement. Premier tenu dans la ville de Solo, au début indonésien. Congrès est organisé pour commémorer le Sème de la Jeunesse. En outre, cet événement est non seulement pour commémorer le Sème de la Jeunesse, mais aussi pour discuter du développement de la langue indonésienne et de la littérature dans son ensemble. On continue le 25 juin 1950, le début de la guerre de Corée. Les Coréens du Nord franchissent la ligne de démarcation du 38e parallèle qui sépare leur État régime communiste de la Corée du Sud, régime pro-occidental. Le président américain Harry Truman convoque le Conseil de sécurité de l'ONU, profitant de l'absence de l'URSS. Il envoie ses troupes sous les ordres du général Douglas MacArthur pour soutenir la Corée du Sud. La Corée du Nord, quant à elle, reçoit l'appui officieux de la Chine. L'armistice sera signé 3 ans plus tard. Les Nord-Coréens envahissent la Corée du Sud. Dans la nuit, 3 navires de la marine sud-coréenne, dont un patrouilleur PC-701, repèrent un cargo nord-coréen rempli de 1 000 soldats prêts de débarquer dans le port de Busan. Après 20 minutes de bataille acharnée, le patrouilleur coule le cargo. Grâce à ce combat, la ville de Busan est restée sous le contrôle sud-coréen et a permis le débarquement des alliés dans son port. On termine le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie font sécession. En Croatie, le Parlement de Zagreb proclame l'indépendance, tandis qu'en Slovénie, c'est le président Milan Kucan qui déclare en pleurant l'indépendance de son pays. La République de Yougoslavie, proclamée en 1945, ne cesse de s'agréger depuis la mort de Tito en 1980. Le gouvernement fédéral yougoslave enverra aussitôt ses troupes en Croatie. C'est le début d'une guerre qui durera 6 mois. Les deux États seront reconnus par la communauté internationale en janvier 1992. Ce solitaire, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix d'Indonésie à Jakarta. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et en titre, la Grande-Bretagne aide d'améliorer la capacité du kit de la circulation aérienne. La société publique de l'institution organisateur de services de navigation aérienne, ou AirNav d'Indonésie, est le fournisseur de services de transport aérien britannique National Air Traffic Services du Royaume-Uni, NATS, se coopère dans l'amélioration des capacités des ressources humaines. 20 guides de la circulation de l'air ou des contrôleurs de la circulation aérienne de Jakarta effectuent la formation en Angleterre. Le président directeur de AirNav d'Indonésie, Bambang Cahyono, a dit « Un certain nombre de guides de la circulation aérienne expérimentent le change de la culture du travail après avoir subi une formation. » Selon Bambang, ils deviennent plus efficaces dans le contrôle de la circulation aérienne. Comme indiqué Bambang Cahyono en mars recevant des visites de l'ambassadeur britannique en Indonésie, Muazzam Malik, au Centre de service de la circulation aérienne Jakarta-Tangerang, Banten, le mercredi dernier. Bambang a expliqué que National Air Traffic Services britannique a reconnu la qualité du trafic aérien en Indonésie, ce qui n'est pas moins compétitif avec l'étranger. National Air Traffic Services NATS, AirNav d'Indonésie et Angkasa Pura, deux sociétés anonymes, ont signé la coopération le 3 juin 2015. Une telle coopération vise à améliorer la capacité de l'aéroport international Soekarno-Hatta de 72 à 86 vols par heure sans la nécessité de pistes supplémentaires. Ces efforts se concentrent sur l'amélioration des procédures de service, le développement des infrastructures, des équipements et des installations, ainsi que l'amélioration de la compétence des ressources humaines. Cependant, l'ambassadeur britannique en Indonésie, Muazzam Malik, a expliqué « L'une des valeurs importantes dans la culture du travail est la coopération entre les guides de la circulation aérienne et de toutes les parties prenantes ou de l'ensemble des parties à l'aéroport, y compris le pilote et les personnes qui gèrent l'aéroport, des infrastructures et des terminaux dans la région, dans la régulation de la circulation aérienne. Cependant, afin d'accélérer le mouvement des aéronefs à l'aéroport, le chef du conseil de NATS, Steve Hathaway, a dit « Lui et tous les éléments des aéroports qui travaillent ensemble, y compris Angkasa Pura II Société Anonyme et AirNav d'Indonésie, afin d'assurer que le guide du trafic aérien peut guider de manière efficace du centre de service aux sections existantes au terrain. » Selon Hathaway, l'accord avec AirNav d'Indonésie et Angkasa Pura II est la première fois pour réunir l'institution de l'opérateur de l'aéroport et le service de la circulation aérienne pour augmenter la capacité de l'aéroport. Cependant, le directeur d'opérations et de techniques d'Angkasa Pura II, Joko Muriatmojo, a dit que la coordination de tous les côtés est la clé principale à augmenter la capacité du mouvement d'avion, si bien que l'avion n'a pas besoin de longtemps de roulage. Cher ami, c'était la mise au point.
L'ambassadeur Marguet a exprimé que les produits de l'Indonésie pouvaient pénétrer le marché européen en ligne avec la connexion de la Croatie avec le pays belte, la mer Adriatique et la mer Noire. En outre, c'est parce que les deux pays sont des pays archipélagiques. Elle a révélé la possibilité de coopération dans la construction navale et le transfert de la technologie en envoyant les ingénieurs croates en Indonésie pour collaborer avec les ingénieurs indonésiens. L'Indonésie est sûre que le résultat du référendum n'influencera pas la relation bilatérale entre l'Indonésie et le Royaume-Uni. Et cela devient l'intérêt commun des deux pays de continuer à intensifier la coopération dans divers domaines stratégiques. Lors d'un référendum tenu jeudi 23 juin, l'Indonésie a examiné de près le processus et les résultats du référendum au Royaume-Uni le 23 juin 2016, qui est le reflet de la volonté de la majorité des gens britanniques. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, dans un communiqué de presse reçu par Antara vendredi, a déclaré que les résultats du référendum donneront naissance à un nouvel ordre politique et économique au Royaume-Uni et en Europe. Cependant, l'impact direct du référendum sera vu au moins les deux prochaines années. Du côté politique, l'impact direct pour l'Indonésie sur le résultat du référendum sera très limité. Les priorités de partenariat entre l'Indonésie et la Grande-Bretagne et le partenariat entre l'Indonésie et l'Union européenne ne changera pas. La Grande-Bretagne est un partenaire stratégique de l'Indonésie depuis l'année 2010. Le gouvernement indonésien a félicité tous les Colombiens pour la réalisation d'un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement colombien et la guérilla de FARC. L'ambassadeur d'Indonésie en Colombie, Tri Edi Mulyani, a déclaré dans son communiqué de presse vendredi, bien que cet accord ne soit pas encore l'accord de paix définitif, elle espère que l'accord conduit à la création d'un pays durable en Colombie. Après avoir passé le processus de négociation qui est long et compliqué, jeudi à La Havane, au Cuba, le gouvernement colombien et le groupe de guérilla de FARC ont signé un accord de cessez-le-feu pour mettre fin à un conflit qui a duré plus de 50 ans en Colombie. L'ambassadeur Tri Edi Mulyani espère que les deux parties respectent les contenus de l'accord et le gouvernement colombien a répondu à la promesse à son peuple afin de rétablir la confiance des gens envers le gouvernement. Il a ajouté que le gouvernement de l'Indonésie était prêt à renforcer la coopération avec la Colombie pour soutenir le processus de paix et son développement durable. L'Indonésie doit avoir une souveraineté de cyber afin de contrôler le flux d'informations, y compris la doctrine radicale, avec le standard du pays démocratique, mais priorise les intérêts nationaux. Après que la souveraineté de cyber soit appliquée, une variété de contenus numériques ou électroniques qui met en danger, l'État pourrait être résolu par des mesures préventives. C'est ce qu'affirmait un membre de la Commission 1 du Parlement de l'Indonésie en tant également le membre du comité de travail du projet de loi sur l'information et les transactions électroniques à l'IFSU du Tomo vendredi à Jakarta. Pendant ce temps, le professeur de sciences de la communication de l'Université Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, Yuli Chandrasari, a déclaré « La souveraineté de cyber était importante d'anticiper et de minimiser l'impact négatif de l'Internet, en particulier l'utilisation des médias sociaux qui est actuellement utilisée largement pour la propagande du radicalisme et le terrorisme. Concernant la propagande du radicalisme dans le cyberspace, Yuli Chandrasari admet il est très probable que cette propagande affecte les netizens, en particulier de ceux qui ont déjà une tendance. Divers moussafs de Coran de l'Indonésie et le Grand Coran imprimé étaient à l'attraction principale au stand d'Indonésie à la 24e exposition internationale du Coran tenue à Téhéran du 13 au 28 juin 2016. Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Téhéran reçu par la radio République Indonésie le jeudi, l'Indonésie a honneur d'occuper le pavillon avant-garde et ambassadeur de l'Indonésie à Iran, Octavino Alimuddin, est invité d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture. À la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur Octavino a coupé symboliquement le ruban avec le vice-ministre de la Culture et de l'Orientation islamique, Mohamed Reza Esmati. À cette occasion, l'ambassadeur Octavino Alimuddin a dit, à travers la participation à cette exposition, l'ambassade d'Indonésie à Téhéran veut promouvoir d'autre part l'Indonésie qui n'est pas seulement riche en culture et la beauté naturelle, mais l'Indonésie a aussi de fortes littératures islamiques dans la vie quotidienne. En outre, il y a aussi la proximité historique entre l'Indonésie et l'Iran, en particulier dans l'histoire de la propagation de l'islam dans l'archipel. L'heure dernière, les exportations des produits de la pêche d'Indonésie vers l'Espagne pour la période de janvier à avril 2016 ont atteint plus de 8 millions de dollars américains, soit environ 108 milliards de roupies. Le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Madrid, cité par Antara de Londres, a informé vendredi que la valeur d'exportation a fortement augmenté de 221,3%. Il a dit que l'augmentation des exportations vers l'Espagne suit à une politique du gouvernement indonésien afin d'optimiser les résultats du secteur de la mer et de la pêche. Les exportations de la pêche indonésienne vers l'Espagne sont dominées par le poisson congelé, y compris le thon blanc, le thon jaune et le thon listo. En outre, les exportations des figuiers et de la viande de poisson vers l'Espagne sont également très prometteuses. Outre le poisson, l'Indonésie a également exporté des calmars, des crabes et d'autres animaux marins sous forme de surgelés ou transformés qui ont atteint plus de 804 000 dollars américains. Ces auditeurs auditistes de la voix d'Indonésie, c'était le journal aujourd'hui.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le magazine culturel. Et cette fois, nous allons présenter la mosquée Al-Osmani. Il y a des milliers de mosquées en Indonésie dans les diverses régions, villes ou provinces depuis Sabang à Aceh jusqu'à Merauke en Papouasie. C'est la formule qu'on utilise pour dire toute l'Indonésie, d'ouest en est. Beaucoup de mosquées possèdent un style architectural unique qui reflète souvent les mélanges culturels comme par exemple entre hindous et musulmans, chinois, java islamique, Minang islamique, Makassar islamique et beaucoup d'autres encore. C'est parce que la culture indonésienne a été influencée par de nombreuses cultures étrangères telles que l'Hindi, la Chine, l'Arabie ainsi que par diverses cultures ethniques autochtones. Dans la province de Sumatra Nord, il y a trois mosquées anciennes que vous pouvez visiter. Ce sont la mosquée Al-Mashun ou la mosquée Raya, la mosquée Lama Gang Bangkok et la mosquée Raya Al-Osmani. Parmi ces trois mosquées toutes anciennes, la mosquée Raya Al-Osmani est la plus ancienne. Et cette fois, nous vous invitons à voir la beauté de l'architecture de cette mosquée qui est également connue sous le nom de Grand Mosquée de Labuan, car elle est située à Jalan KL Yosudarso KM 19,5 dans le district de Medan Labuhan dans la ville de Medan. La mosquée d'Al-Osmani est celle du royaume Delhi qui a été construite par le sultan Osmani qui a régné de 1854 jusqu'à 1858 avant Jésus-Christ. C'est pourquoi la mosquée est appelée Masjid Al-Osmani en conservant le nom de son fondateur. Dans cette mosquée, le sultan et sa famille ont souvent prié le vendredi ainsi que pour les prières de la fête de l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha. Outre d'être le lieu de prière, cette mosquée jusqu'à maintenant est également utilisée comme un centre de célébration des journées commémoratives de l'islam comme l'anniversaire du prophète ou Nuzulul Quran. Quand il a été construit en 1854, la taille de la mosquée Al-Osmani était seulement 16 mètres sur 16 et elle était construite essentiellement en bois. En 1870, le sultan Delhi Mahmud Al-Rashid a décidé de faire une restauration profonde de la mosquée en faisant appel à un architecte allemand, Langer. La taille a été également agrandie pour pouvoir accueillir un millier de personnes. Après plusieurs rénovations, la superficie de la mosquée atteint actuellement 1 hectare. La couleur mosquée d'Al-Osmani est jaune, la couleur de la fierté du sultanat malais de Delhi. Cette couleur est utilisée comme un symbole de la grandeur de la communauté malaise pour témoigner de sa gloire. Outre la couleur jaune, la couleur verte est assez dominante. Le vert est interprété comme un symbole de l'islam. L'architecture de la mosquée Al-Osmani est tout à fait unique en ce qu'elle combine le style du Moyen-Orient, de l'Inde, de l'Espagne, avec des influences malaises et chinoises. Les ornements chinois peuvent être vus sur les portes et sur la chair de la mosquée. L'architecture indienne est visible dans le dôme de cuivre de forme octogonale et qui pèse 2,5 tonnes. L'intérieur du dôme est peint et décoré d'une très belle calligraphie. Outre sa belle architecture, cette mosquée possède aussi une relique antique sous la forme d'un tambour d'appel à la prière qui n'est pas utilisé que lors des grandes occasions. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé « La mosquée Al-Osmani ». Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique de l'Indonésie en couleur. Le développement rapide du monde numérique a donné beaucoup de valeurs positives pour le peuple de l'Indonésie et du monde. Il a également incité la nation de prouver si la compétitivité de l'Indonésie ne pouvait pas être sous-estimée. Bien que parfois sous-estimée par de nombreux pays développés, en fait, certains travaux numériques des Indonésiens est connu au monde et invite la louange. L'un d'eux, une bande dessinée numérique, Baladeva, qui devient le sujet de l'Indonésie en couleur ce soir. Beaucoup de gens de l'Indonésie pensent que la culture est une chose difficile à comprendre, classique, obsolète et nécessite beaucoup de temps pour la profiter et comprendre. Préoccupé avec elle, Putu Gede Ari Wicahyana et son équipe à Tantrans Comics Bali a initié la naissance des bandes dessinées littéraires dans lesquelles il y a des charges de l'histoire et de la culture. À la mi-2013, on a lancé une bande dessinée en langue anglaise en prenant le titre Baladeva, la chronique de Calon Arang. Une histoire épique sur le Medang Royal, l'embryon de l'ancienne Mataram. Avec un scénario unique et une touche visuelle intéressante, cette bande dessinée a réussi à pénétrer le marché international. Baladeva est la première bande dessinée numérique qui a pénétré le monde en deux langues, à savoir indonésienne et anglaise. Anglais a été choisi, selon Ari, pour montrer au monde que les jeunes ont la capacité de production qui peut pénétrer le marché international. Bien que les raisons de la sélection de la littérature comique, parce que selon Ari, la jeune génération de l'Indonésie aujourd'hui est moins familière avec la littérature et de l'histoire royale. Il est souhaitable que grâce à la bande dessinée, la communauté soit intéressée à étudier la littérature et de l'histoire. Par conséquent, le caractère des chiffres jusqu'à ce que la scène entière dans l'approche Baladeva a été fait réel avec de belles couleurs. La circulation de Baladeva avec des images similaires à animation est vendue bien sur les marchés européens jusqu'au troisième volume. Des milliers de livres au prix de 300 000 rupiahs par livre sont vendus. Il y a beaucoup qui ont commandé des dizaines de livres, bien que l'affranchissement ne soit pas cher. Cependant, en Indonésie, seulement vendu environ 200 livres. En réalisant cela, maintenant Ari et les amis de Tantras Comics Bali changent la forme de bande dessinée Baladeva. Cette année, des volumes 4 et 5 qui sont prêts à être distribués, Tantras essaie d'éduquer à travers le e-book, soit livre numérique, en indonésien et en anglais. Le prix est 30 000 rupiahs par volume et peut être téléchargé pour être lu partout. Dans ce e-book, Baladeva n'est pas seul. Tantras a pris quelques écrivains littéraires de Bali, comme Chok Savitri, grâce à son dernier roman. De campus à Bali, Université d'éducation Ganesha et l'Institut d'art d'Indonésie Denpasar sont prêts à se joindre et de rendre les œuvres littéraires des étudiants de la forme de livres numériques. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain. vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonjour, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier, avec moi, Yubi Suryanto, dans le magazine de Planginada ou magazine de musique. Ce magazine qui présente la musique traditionnelle indonésienne et moderne. Pour l'édition ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop indonésienne appelée Raisa Andriana. Elle est née à Jakarta le 6 juin 1990. Le 27 avril 2016, elle a sorti son nouveau album intitulé Handmade. Chers auditeurs, avant nous le connaissons plus loin avec Raisa, voici une chanson intitulée Kroye, chantée en duo avec Afghan et Raisa.
I'm
Vous avez tout à l'heure écouté une chanson de Raïssa intitulée Croyez dans l'album Handmade. Cet album est appelé Handmade parce que dans le processus de la composition ou dans la production, Raïssa se sentait vraiment faire elle-même. À partir des paroles d'écriture, la sélection de chansons, instruments de musique, le processus de production, même elle, le produit elle-même. Ainsi, selon Raïssa, ce troisième album se sent plus à la main ou handmade. Raïssa a eu la grande contribution de cet album. Il y a 9 des 11 chansons de la composition de Raïssa dans cet album. Par conséquent, selon elle, cet album est une maturation de sa carrière dans le monde du chant. Dans cet album, elle a créé beaucoup de chansons. Elle a été en mesure de consacrer toutes les émotions jamais ressenties et le sens qu'elle verse dans chacune des chansons. Chers amis, voici la deuxième chanson de Raïssa intitulée « Tombe en amour ». Auditeur, il y a 3 chansons hits dans l'album Handmade, entre autres Tomber en amour, Croyez et la deuxième fois. Dans la chanson Tomber en amour, qui est sortie le 15 mai 2015, Raïssa montre sa capacité musicale qui est bien développée de plus en plus. Un pour le sentir sur le nouveau élément dans sa musique, dans sa focale. Elle a suivi ce qu'il pensait des choses qui lui ont fait tomber en amour avec cette chanson. Les choses qui lui ont fait tomber en amour ici, des peines, pas seulement limité à ce qui est vu à travers les yeux. Chers auditeurs, avant nous terminons notre programme musical, ce sont une écoute de chansons de Raïssa intitulée « La deuxième fois » et « La fille langue ». Bonne écoute et au revoir.
Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.